Dis-moi comment tu parles, je te dirai qui tu peux convaincre.
Chantal Leroux.
Bonjour Julien Barret.
Bonjour Chantal Leroux.
Vous êtes linguiste et vous publiez Parler avec style, toutes les astuces pour avoir un style unique chez First Edition, un petit manuel pratique inspiré du podcast disponible sur la plateforme Magellan. Alors certains sont des tribunés, ont le verbe fleuri, d'autres ont une répartie d'enfer, des chanceux ont le don de savoir amuser, captiver ou toucher leur auditoire. Julien Barret, est-ce que vous promettez à tous ceux qui transpirent d'angoisse, qui ont la boule au ventre ou rougissent comme des écrevisses au moment de prendre la parole, que votre livre va changer leur vie?
Je fais pas de promesse aussi définitive que l'usage le veut dans l'édition. En particulier, le titre que j'ai choisi, moi, c'est « Parler avec style ». Donc, ce que je vous promets, c'est de vous dire ce que je sais du style et dans quelle mesure vous pouvez user des ressources de la langue française pour produire des énoncés, pour parler, pour écrire, de façon marquante, séduisante, amusante. Je peux pas vous garantir absolument que vous allez être transformé, puisque c'est une expérience aussi personnelle, et je peux pas vous dire que vous aurez absolument un style unique. Il y a une singularité de chacun, et il y a un style propre à chacun, mais c'est intéressant de piocher dans un répertoire et dans des références pour voir dans quelle mesure vous pouvez parler de façon plus subtil ou plus direct.
Alors l'art de dire, de parler avec style, pour reprendre le titre de votre livre, ça ne s'improvise pas. Il faut s'appuyer sur la rhétorique et la poétique. Expliquez-nous ce que signifient ces deux termes, peut-être un peu abstraits.
Merci pour cette question. Aujourd'hui, on assiste au retour de l'art oratoire. Depuis une dizaine d'années, c'est une tradition qui existe dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations, à toutes les époques, et qu'on avait oublié en France. Ça, c'est la rhétorique, c'est l'art de la parole. Et l'art poétique, c'est quelque chose qu'on a oublié, mais toute notre histoire, en particulier occidentale et française, est traversée par des arts poétiques. C'est le cas de Dubellay, La Défense, Illustration de la langue française, c'est le cas de Boileau, même de Raymond Queneau avec ses exercices de style. C'est une manière de composer pour plaire. C'est une manière de composer, donc l'art poétique, c'est plus une dimension de composition écrite, et la rhétorique, c'est plus une dimension de prise de parole, donc plus orale. Et mon ambition, même si c'est peut-être difficile à réaliser, c'est de réunir la parole et l'écriture dans un aller-retour perpétuel, et de voir ça, on le sait déjà, dans quelle mesure on peut préparer la parole avec l'écrit. On a des notes, les gens ont des notes, mais dans quelle mesure l'écrit, dans quelle mesure la parole va transformer l'écrit. Et ensuite, ça va devenir une sorte d'aller-retour perpétuel de machine. Et la rhétorique, c'est une sorte de machine qui se met en marche comme ça et qui vous aide à produire toujours des nouvelles choses.
Mais quand on entend parler avec style, on peut penser a priori à une parole un peu ampoulée, précieuse, voire pédante. Alors qu'en fait, il s'agit de trouver son style à soi en étant naturel et si possible original. C'est ça la gageure.
Exactement. Et vous dites le mot gageure qui est
et
une
non
gageure,
pas gageure,
qui est une gageure en soi. Et l'orthographe réformée de 90 permet de s'y retrouver plus facilement avec le tréma posé précisément sur le U, ce qui n'était pas le cas avant. Je crois qu'il était sur le E, ou alors il n'y en avait pas du tout. Parler avec style, moi, ça me semble pas trop ampoulé. Et vous savez, j'avais prévu de l'intituler donner de l'ornement à ses paroles.
Oh là.
Et là, vraiment, là, c'était beaucoup trop ampoulé. Effectivement, parler avec style, en fait, la rhétorique de Cicéron, par exemple, puisque la rhétorique a des origines en Occident grec et latine, elle consiste à alterner des moments très recherchés. C'est une tradition qui s'appelle l'asianisme, ampoulée, précieuse, et avec cela, on fait alterner quelque chose de naturel, de clair, d'intelligible, et peut-être qu'un idéal du style serait, il faut varier.
Et l'art d'un bon orateur, c'est de faire croire qu'il improvise alors que les formules qui font mouche ont été préparées en amont.
L'art de faire croire qu'on improvise, effectivement, est très intéressant. Diderot appelle ça le paradoxe du comédien. Et sur les scènes de stand-up, on voit, c'est-à-dire des one-man shows très actuels, où le comédien feint de s'adresser au public comme à ses amis. En fait, rien n'est improvisé et tout est fait comme si c'était improvisé. Alors après, l'improvisation celle qui fonctionne le mieux, c'est celle qui est préparée. Et effectivement, donner une illusion de naturel et d'improvisation, c'est tout un art qui se prépare.
Alors, ce qui est amusant et agréable dans votre livre, c'est que vous donnez plein d'exemples, à la fois classiques et actuels, pour expliquer les figures de style, par exemple. Vous citez des philosophes, des écrivains, des poètes, des politiques, aussi bien que des scénaristes, des humoristes et des rappeurs. Ça vous tenait à cœur de prendre ce vaste échantillon à la fois dans le passé et dans le
présent ? D'une part parce que moi je suis linguiste et que le point de vue des linguistes a priori c'est de considérer la langue non pas selon une hiérarchie sociale, ce qui est le cas en France. Par exemple dans la rhétorique, on a tendance à penser que les hommes politiques et les avocats sont ceux qui détiennent l'art oratoire classique. Les linguistes, ils écoutent, ils entendent, ils notent la langue qui se parle, la langue partout. Et du point de vue de l'art oratoire, je suis tout aussi fasciné par l'art oratoire des battleurs, par l'art oratoire des marchands sur le marché, des stand-uppers, des rappeurs, des slameurs, des slameuses, que par celui classique des hommes politiques. Et il me tenait à cœur de montrer, en fait, il s'agit de parole, de parler. Mais tout le monde parle. Et moi, j'analyse, les linguistes, les rhétoriciens analysent la façon dont les gens parlent. Mais comme tout le monde peut parler, tout le monde est digne que sa parole soit analysée et citée.
Alors, on ne parle pas de la même manière selon qu'on s'adresse à une foule dans un meeting politique, à son futur patron lors d'un entretien d'embauche, à des collègues lors d'une réunion de travail ou à des élèves dissipés quand on est prof. Il existe différents registres de langue.
Il est question évidemment de s'adapter à son auditoire et vous qui présentez des émissions, vous ne parlez pas de la même façon si vous demandez une baguette de pain ou si vous prenez le micro. Peut-être que quand on prend le micro, on fait un peu plus attention. Il faut, quoi qu'il en soit, quand on prend la parole, se demander à qui on s'adresse, de quelle manière on s'adresse et ça c'est pas forcément conscientisé. En fait, on prend la parole et on s'adapte à ses interlocuteurs. Donc le registre populaire va être plutôt mobilisé sur une scène stand-up et quelque chose de plus soutenu lorsqu'il y a un protocole à respecter.
Alors, vous proposez des exercices pratiques à la fin de chaque chapitre. On va prendre l'exemple du dicton « La musique adoucit les mœurs ». Qu'est-ce qu'elle devient, cette petite phrase, dans le registre populaire ?
Alors, donc j'ai fait un petit jeu, je demande un peu d'indulgence aux auditrices et aux auditeurs. J'ai essayé d'être un peu comique. Dans le registre populaire, on pourrait dire « La zic, c'est juste du gros kiff pour les esgourdes ». Registre populaire, pas très actuel parce que...
On dirait du Pierre Perret.
Voilà, donc si on était dans un truc plus contemporain, plus d'argot, ce serait du bon son, rien que c'est d'art pour kiffer sa life.
Ah oui, ça c'est vraiment plus actuel. Dans le registre soutenu, qu'est-ce que ça donnerait ?
On pourrait imaginer quelque chose comme le rythme et l'harmonie pénètrent l'âme en apportant un agrément indispensable à la vie humaine.
Et un dernier exemple dans le registre administratif ?
On pourrait écouter quelque chose comme la pratique musicale permet à l'individu de s'épanouir dans son référentiel psychosocial. Je vous demande vraiment de l'indulgence.
Accordé. Les discours des hommes politiques sont un formidable matériau pour les linguistes comme vous. On se souvient du discours de François Hollande lors de son débat télévisé en 2012 face à Nicolas Sarkozy.
Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République, je ne participerai pas à des collectes de fonds pour mon propre parti. Moi, président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière indépendante. Moi, président de la République, je n'aurai pas la prétention de nommer les directeurs des chaînes de télévision publiques.
Moi, président de la République... Moi, président, François Hollande l'a dit combien de fois ?
Je me rappelle plus.
15 fois, je crois.
Ce qui est fascinant, c'est bien qu'on se pose cette question, c'est-à-dire que quand on commence à dérouler comme ça son propos sur le mode anaphorique, de manière répétitive, envoûtante...
Et là, tout le monde a appris l'existence du mot anaphore.
Oui, donc on remercie François Hollande d'avoir popularisé l'anaphore, que je trouve la figure la plus puissante, la plus efficace, la plus immédiatement partageable dans un atelier d'art oratoire ou d'écriture. En fait, quand vous utilisez cette figure, et c'est l'effet qui s'est produit dans ce dialogue, dans ce débat présidentiel face à Sarkozy, c'est que on n'ose pas interrompre, il y a un effet de vague sidération qui se produit et il y a quelque chose de lancinant qui semble ne jamais devoir comme une source inextinguible. Et en fait, l'anaphore a un certain nombre de dimensions que je résumerai pas ici, mais elle est extrêmement puissante en termes de ressources rhétoriques.
Parce qu'on martèle son propos.
On martèle son propos, c'est un moyen mnémotechnique qui vous permet de vous souvenir de ce que vous dites. Bon, grosso modo, puisque vous soulevez le problème, si j'anime un atelier de prise de parole, je peux proposer un truc que j'ai formalisé qui s'appelle l'anaphore improvisée. On peut demander à quelqu'un d'improviser en utilisant une séquence du style « ce que j'ai à vous dire », trois petits points, et ça permet de structurer comme une colonne vertébrale le propos. Mais si vous devez faire un atelier d'écriture, écrire un poème, eh bien, vous repérez une expression que vous avez dite qui est intéressante et vous la répétez. Il y a énormément de poèmes. Il y a « Je me souviens » de Georges Perec qui est une fiction, enfin qui est
un
recueil de souvenirs collectifs. Il y a la tentative de description d'un dîner de tête de Prévert. Donc vous avez une colonne vertébrale, une structure qui n'est pas forcément un développement dialectique, mais qui vous permet de savoir où vous allez.
Alors pour capter l'attention, pour provoquer la surprise, vous écrivez qu'il faut savoir casser le rythme d'un discours en créant des raccourcis avec des figures de style comme la syndette que pratiquait Jules César, c'est ça ?
Oui. Alors, les raccourcis, ça peut être « Weni, Widi, Vici »,« Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu », c'est l'exemple le plus célèbre de Jules César, et c'est ce qui vous permet, en fait, d'exprimer quelque chose que vous pourriez faire de façon très longue avec des périphrases en quelques secondes. Et effectivement, si il s'agit de prendre la parole, il est question parfois de varier le style, et si vous faites ce qu'on appelle des grandes périodes rhétoriques, c'est-à-dire des grandes phrases qui se développent de manière musicale et donnent un sentiment de complétude à l'oreille, eh bien c'est bien de les faire alterner avec un mot jeté comme ça, ou une série de termes, ou des petites formules comme la syndette, ou ce type de jeu.
Alors, vous donnez d'autres exemples. PNL qui a repris le même procédé, le groupe.
Exactement.
PNL.
C'était dans...
Non, vous ne savez plus. Vous avez oublié.
Le soleil se lever, se manger...
Attendez, je vais peut-être
le
vous
soleil
aider.
Le
temps passe, je vois le soleil se lever, se coucher, je mens quand je dis ça va.
Ok, donc reprenons l'exemple de PNL que j'avais plus en tête. Le temps passe, je vois le soleil se lever, se coucher, je mens quand je dis ça va. Donc là, on a vraiment une vision du temps qui est raccourcie, où juste en un instant est exprimé le passage du temps, donc d'une journée complète, le soleil se lève, se couche, et ça se termine par une réflexion un peu désenchantée sur le monde. Mais effectivement, je l'avais mis en parallèle avec la sentence de Jules César pour dire que en quelques mots, en une phrase très courte, on peut exprimer une période de temps assez longue, ce qui correspond aussi à la figure de l'ellipse.
Et on peut citer Booba aussi dans la chanson numéro 10, qui supprime les conjonctions et les mots de liaison pour aller à l'essentiel.
Nos chicorailles, le parquet, otage, rançon, hélicoptère, j'ai du calcaire dans les artères, un cœur de pierre. Et donc là, c'est otage, rançon, hélicoptère. C'est comme si il y avait une description très rapide par images successives, de façon quasi cinématographique, qui vous donnait à voir une sorte d'ellipse de raccourci temporel très visuel.
Et puis il y a ceux qui adoptent carrément le style télégraphique, comme Grand Corps Malade dans la chanson Un Verbe.
Une rencontre, un été, un sourire, un numéro, un mail, une attente, un souvenir, un appel, une voix, un début, un rencard, Un horaire, un endroit, une venue. Un espoir. Une terrasse. Un café. Un dialogue, un moment. Un soleil, une lumière, un cœur, un battement. Une seconde. Une minute. Une heure. Un plaisir. Un au revoir. Une prochaine, une promesse, un désir. Un après, une durée, une patience, un silence, un doute, un pourquoi, un regret, une distance. Un retour, une surprise, un déluge, une marée, une suite, une envie, un projet, une soirée. Pleine lune, une virée, un instant, une pulsion, un frôlement, un baiser, une magie, un frisson, un accord, un avenir, une force, une destinée, une étoile, un poème et un verbe, aimer.
Un verbe grand corps malade sur RFI dans Deux Vives Voix. Nous sommes toujours avec le linguiste Julien Barret qui publie Parler avec style aux éditions First. Julien Barret, il faut attendre la dernière phrase du texte de Grand Corps Malade pour entendre le verbe aimer. C'est amusant mais difficile à faire pour qui n'est pas chanteur, poète ou slameur.
Non, en fait, c'est pas difficile à faire. Tout l'enjeu de ce retour de l'art oratoire, des ateliers d'écriture, c'est de proposer à tout le monde d'écrire des textes selon des contraintes. Là, c'est une contrainte qu'a inventé a priori Grand Corps Malade quand j'ai parlé avec lui, qui consiste donc précisément à ne faire que des expressions nominales juxtaposées pour à la fin déployer un verbe juste en dernier ressort de telle sorte que l'attention se retourne vers ce verbe-là, donc qui s'est aimé. Mais si vous voulez, tous les exemples que j'ai donnés là, que ce soit de PNL, de Booba, où on avait, si vous aviez cité Jules César, c'est ce qui s'appelle la parataxe en linguistique. En stylistique, c'est-à-dire que c'est une juxtaposition des énoncés, c'est pas vous n'avez pas des propositions subordonnées, etc. Et avec cet exercice, donc en gros de style télégraphique, on peut, tout le monde peut proposer des textes. En fait, c'est une contrainte que je peux vous donner comme ça à n'importe qui, et vous écrivez un texte uniquement avec des noms, uniquement avec des verbes, ou alors en supprimant tous les mots de liaison, toutes les conjonctions de subordination. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. Il suffit juste d'avoir un programme comme ça, de se dire, ben voilà, maintenant je vais composer mon texte selon la contrainte de Grand Corps Malade et je vais faire un texte en style télégraphique.
Alors, autre astuce très efficace, les discours imagés. Les hommes politiques en sont plutôt friands.
Tout le monde gagne à imager ses discours. Dans le précédent livre que j'ai fait, adapté d'un podcast, l'Atelier Oratoire, j'avais cité un avocat, ancien rappeur, Serge Monet, qui dit « La force de l'orateur, c'est de donner des images, c'est d'illustrer, c'est d'imager ses paroles. » C'est le cas de Booba, mais c'est le cas de n'importe quelle oratrice et orateur. C'est le cas de beaucoup d'écrivains, de poètes, de poétesses, de figurer. C'est tout simplement d'utiliser des métaphores. Ça vous permet de donner à voir quelque chose en utilisant un raccourci, en gagnant du temps. C'est l'inverse d'une périphrase, c'est l'inverse d'une longue phrase explicative, une image, pour dire par exemple, au lieu de dire « voilà, j'ai chuté dans l'escalier, je me suis gaufré ». C'est pas forcément drôle, mais c'est une image du langage populaire qui utilise, qui recourt à ce truc culinaire de la gaufre, ce plat, cette réalisation à partir de farine, d'œufs et de sucre. Voilà, vous avez l'image qui apparaît directement.
Alors vous citez un proverbe sahélien en forme de très jolie métaphore. La parole est comme l'eau, une fois versée, on ne la ramasse pas. Vous parlez aussi de métaphore filée et vous donnez l'exemple de Kerry James, vous vous en souvenez ?
Kerry James,
c'est
le capitaine dans le bateau de mes efforts.
Alors qu'est-ce que c'est une métaphore filée ?
Alors une métaphore déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait d'associer deux réalités. C'est comme un outil, c'est comme une comparaison sans l'outil comparatif. Donc c'est le fait de présenter quelque chose à travers une autre image. En gros, dans les images, dans les métaphores, dans ce qui s'appelle les tropes, dans la rhétorique antique, vous avez deux référentiels. Ce que vous dites, le monde auquel vous faites référence, et le monde imagé auquel vous essayez de rattacher le monde référentiel. En fait, filer la métaphore consiste à ne pas avoir juste un objet dans le réel et un objet imaginaire, mais une série d'objets dans le réel qui se raccrochent à une série d'objets imaginaires. Et puisque je parlais de gaufrer, on pourrait faire une métaphore filée avec que des termes du champ lexical de la cuisine.
Oui, parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi le registre culinaire, le registre sportif, le registre médical.
Donc, filer la métaphore culinaire, ça pourrait vouloir dire utiliser dans le même texte le mot gaufrer, le mot beurré, toutes les métaphores
qui vont... Se viander, voilà. Entre guillemets.
Et voilà, on aura fait une métaphore filée qui nous emmènera dans une cuisine.
Alors attention aux petites phrases qui peuvent être prises au pied de la lettre. On écoute Nicolas Sarkozy le 10 novembre 2015.
Pourquoi n'a-t-on pas d'ores et déjà mis en œuvre le délit, car de mon point de vue c'est un délit, de consultation d'un site djihadiste? Pardon de cette image, mais lorsqu'on consulte des images pédophiles, on est un pédophile. Quand on consulte des images de djihadistes et de sites djihadistes, on est un djihadiste et on doit être traité comme tel.
Et vous racontez, Julien Barret, dans votre livre, la réponse d'un tweeto. Qu'est-ce qu'il avait répondu ?
Il avait répondu, et si je regarde des images de Brad Pitt, alors je deviens Brad Pitt. Ça, c'est un phénomène humoristique intéressant qui consiste à prendre au pied de la lettre ce que votre interlocuteur, votre interlocutrice dit, comme le faisait Alphonse Allais avec une expression bien connue, la nuit tombe et personne pour la ramasser. Vous prenez justement la métaphore et vous la ramenez au réel.
Alors Julien Barret, vous qui aimez la saveur des mots, je vous propose de retrouver comme chaque premier mercredi du mois la chronique de Lucie Bouteloup, façon de parler. Cette semaine, Lucie a choisi de nous faire entendre un français tel qu'il se parle en Côte d'Ivoire, le nouchi.
Façon de parler, hein. Façon de parler.
Façon de parler.
Il y a feuille.
On dit quoi?
Il y a pas l'homme aussi.
Je m'enseigne.
Sinon, il y a ça ment pas aussi.
Je crois que je suis fan nienne.
Quand il y a drap, il y a problème.
Il y a aussi les farauteurs farautés.
On est très blessés quand on n'a pas d'argent. Moisi, il y en a certains qui disent ouais, je suis moisi, c'est vrai.
On est où? À la rue de Joy.
Depuis quelques années, le nouchi, cet argot parlé dans les rues d'Abidjan dans les années 70, s'est répandu comme une traînée de poudre dans toute l'Afrique francophone et il a même gagné le vieux continent. En langue malinké, nou, c'est le nez, et chi, c'est le poil. Nouchi, c'est donc un mot inventé en hommage à la moustache des cow-boys, un marqueur de virilité et de courage, mais aussi une source d'inspiration pour les garçons des rues. Comme un créole, le nouchi est construit avec un patchwork de langues parlées en Côte d'Ivoire, mais aussi avec des mots français et anglais. Une langue vivante qui se réinvente en permanence, mais aussi un fort marqueur identitaire d'une communauté noire. La preuve, dans le salon de coiffure de Djenaba à Paris, Anémone, Oli, Michael et Isaac me font une petite mise à jour, l'occasion aussi de s'enjailler un peu. Qu'est-ce qu'il y a comme expression alors qu'il faut absolument connaître en nouchi et qu'on utilise à Paris par exemple?
Souvent le bonjour.
C'est comment?
Je crois un terme qui revient souvent, ce serait Yafoy, qui est un peu la romance assez comment? Bah, y a rien.
Y a rien, donc ça veut dire ça va bien, quoi.
Voilà. Disons que c'est en fonction du contexte, ça peut tout et rien dire à la fois. Si on te demande, tu fais quoi? Bah, rien, bah, Yafoy.
Djenaba, est-ce qu'il faut être ivoirien pour parler nouchi?
Non. De toute façon, qui côtoie un ivoirien parlera à un moment donné nouchi. C'est obligatoire. Et à tout moment, il y a des mots qui peuvent sortir. On se rend pas compte, en fait.
C'est un truc que tout le monde a intégré, quoi. C'est un langage que tout le monde a intégré.
Je pense, parce que surtout nous, hein, les Africains d'Ouest, ils ont grandi ici. On n'a pas forcément parlé notre langue tôt. Donc c'était une langue qui nous permettait à nous de se mélanger entre les Capverdiens, Ivoiriens, Antillais, Comoriens. Ouais, et ça nous a fait du bien, en fait.
Tout le monde parle nouchi.
Ouais. Du coup, cette langue très expressive, c'est comme le fait de dire « je m'enjaille ».
Alors ça veut dire quoi, « je m'enjaille » ?
Ça y est, c'est un peu dire « je suis heureux, je suis content, je m'amuse ». Tu l'utilises des termes plus quand tu fais la fête. Et j'aime bien ce mot parce que tu comprends tout de suite, même si une personne ne comprend pas. Elle sait à quoi je vais en venir, en fait, quand je lui dis je vais m'enjailler.
Enjailler, en même temps, ça fait penser un peu à enjoy.
Ouais, c'est comme un créole. Ça vient de plusieurs langues, en fait. Que ce soit des langues de Côte d'Ivoire, des ethnies de Côte d'Ivoire, de Baoulé, surtout de Djoula aussi, mais aussi beaucoup d'anglais, en fait, comme enjoy. Voilà, c'est vraiment multiculturel.
Est-ce qu'on peut dire qu'une femme nous enjaille ou qu'un homme nous enjaille?
Bien sûr.
Oui, bien sûr. C'est pas que pour faire la fête, c'est pour dire qu'on aime bien, quoi, qu'on prend beaucoup de plaisir.
Exactement.
On a compris le verbe, en fait, tout simplement.
En fait, je pense que c'est comme les schtroumpfs. Après, tu peux l'adapter en fonction du contexte, quoi. Bah, comme les schtroumpfs, ouais. Je l'ai schtroumpfé, voilà.
Je l'ai schtroumpfé, qui veut dire j'ai fait l'amour avec elle, quoi.
Bah non, mais ça dépend du contexte. Voilà. Si je le dis à Louli, ça peut dire ça, mais si je le dis à elle, ouais, ça peut vouloir dire bah, je l'ai coiffé. Sinon, il y a « ça ment pas » aussi.
Ouais. « Ça ment pas ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire « ça ment pas »
C'est comme si tu faisais la promotion d'un truc, tu l'as testé et tu dis « ça ment pas », genre « c'est vraiment bien ». C'était vraiment bien. Bah, en parlant de l'amour, du coup, je suis allé voir cette meuf et je l'ai rencontrée sur Tinder. J'avais des doutes. Je l'ai vue en vrai et « ça ment pas ».
Elle est à la hauteur, quoi.
Elle est à la hauteur, voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on dit quand on voit un gars ou quelqu'un qui vous plaît?
On peut dire, ouais, moi je suis fan de lui.
Ah, fan, comme fan. Ouais. Mais on dit pas le fan, on dit fan.
Je crois que je suis fan niéné. Le mot à la fin, c'est une insulte. Je sais pas comment expliquer. En fait, c'est une insulte, je dirais, affective. Donc du coup, en fait, ça a été repris parce que c'est du BT, si je dis pas de bêtises. Et je suis fan niéné, c'est dit, je suis genre, je suis love à en mourir. Sinon, il y a basté, mais c'est sûr, rarement, ça s'est rattaché au mot attaché.
Ouais, c'est comme si on t'avait marabouté au point d'être
ligoté, quoi.
Ligoté d'amour, en fait, de la personne. Ouais, elle m'a attaché.
En fait, quand on est trop attaché, des fois, on peut prendre drap.
Ah, ça.
Nous, quand on disait il y a drap, c'est
embrouille, hein.
Ouais, quand on dit il n'y a pas de drap, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a un drap, il y a problème.
Il y a aussi les faroteurs, faroter. Faroter, c'est se vanter, c'est se montrer, montrer son argent.
Et justement, quand on a plein d'argent, on dit qu'on est quoi alors?
Aujourd'hui, je suis trop en forme. Là, déjà, l'argent. Ou bien on a Pierre.
Et le contraire, alors comment on dit quand on n'a pas d'argent?
On est blessé.
Ah, vous, c'est blessé?
Blessé?
Ah, on est très blessé quand on n'a pas d'argent.
Qu'est-ce que tu dis, Jenava?
C'est ça qui est bien dans le nushi, parce qu'en réalité, tu prends le mot que tu veux. La personne avec qui tu discutes ou les personnes avec qui on discute, de toute façon, vont comprendre ce qu'on dit. On peut dire aussi, je suis piquée, c'est vrai. Piquée, c'est quand? Moi, je dirais, je suis piquée quand je suis amoureuse.
Ah oui, mais non, tu vois?
En Côte d'Ivoire, piqué, ça veut dire que je n'ai rien sur moi.
Je suis piqué ou je suis moisi?
Moisi. Ça, c'est le nushi des années 90.
Ah ouais, j'ai un train de retard.
Je dis qu'il a évolué parce que je pense pas que les jeunes y parlent encore comme ça.
Si, il y en a certains qui disent, ouais, je suis moisi, c'est vrai.
Mais du coup, c'est pas compliqué si la langue, elle évolue tout le temps, de se comprendre. Ça peut prêter quand même à confusion, quoi.
Il y a la conversation, il y a l'intonation, enfin, il y a tout ça, quoi.
Mais est-ce qu'il y a une règle à respecter?
Justement, il n'y a pas de règle, c'est ça la règle, en fait.
On peut créer. Même que tu peux créer ton nushi. Si t'es avec des potes, invente un mot, un terme, puis ça peut, après ça grandit, c'est comme ça. Hein.
Alors comment on dit pour se dire au revoir?
On se jo.
Bah moi j'ai Fraya, je vous laisse là.
Flaya?
Fraya.
On se jo comme on go, quoi.
Voilà, c'est ça.
On dit pas
on béou? On béou, c'est-à-dire on s'en va. On bouge, je crois, c'est le béou de bouge. Ouais. On béou, à la rejoyure.
À la rejoyure? Comme à la revoyure.
Exactement.
Bon, bah alors à la rejoyure.
À la rejoyure.
Julien Barret, que vous inspire le nushi?
Le nushi, c'est une grande source d'inspiration pour le français. Là, je suis en train de terminer un lexique du 91 avec une classe à Ris-Orangis et il y a un certain nombre de mots nushi. Et on peut constater par ailleurs que s'enjailler est entré dans les dictionnaires d'usage français Larousse et Robert. J'avais fait un petit bouquin là-dessus sur les nouveaux mots du dico. Le nushi, au même titre que l'arabe, le gitan, l'antillais, c'est une source lexicale importante pour le français moderne contemporain et en particulier celui des jeunes et en particulier le français argotique.
En deux mots, un dernier conseil à nos auditeurs pour si on veut que sa prise de parole marque les esprits.
On a dit que c'était bien d'alterner les registres de langue, d'alterner les phrases plutôt brèves et longues, et c'est bien éventuellement de faire des punchlines, et pour faire des punchlines, des mots d'esprit, des allusions, on peut détourner des expressions, on peut trouver des doubles sens. Et voilà, on peut prendre au pied de la lettre la phrase qui vient d'être dite.
Merci beaucoup Julien Barret d'avoir été l'invité de Vive Voix. Parler avec style, toutes les astuces pour avoir un style unique vient de paraître chez First Edition. Merci à Cécile Lavolo à la programmation et à Guillaume Ploquin à la réalisation.